Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'accompagne depuis 2018 les freelances dans le développement de leur activité, et notamment, du fait de mon petit parcours dans le monde du design et du branding, les indépendants créatifs. Et je dis « créatifs » avec des guillemets, car dans l'épisode du jour, on explore avec mon invité ce que ça veut dire d'être un être créatif. Mon invité donc, Jérémy Claes, est illustrateur indépendant, mais aussi le fondateur du podcast Sens Créatif, où il part, depuis de nombreux épisodes maintenant, à la rencontre d'autres illustrateurs et personnes créatives, disons. Et je dois dire que j'adore mes conversations avec Jérémy, et à chaque fois que je parle avec lui, on part bien loin et pendant bien longtemps, et cet épisode ne fait pas défaut à cette règle. Et vous verrez d'ailleurs qu'il se livre avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de candeur aussi sur son expérience, et c'est pourquoi je le remercie du fond du cœur. Dans cet épisode donc, on explore ce qui, à son sens, à notre sens, teinte le voyage des indépendants créatifs, que ce soit leur rapport à leur production et à leur activité, les blocages qu'ils rencontrent et comment les lever, et plus globalement, une réflexion sur notre expérience humaine à nous tous et à nous toutes. Je te souhaite donc une merveilleuse écoute et on se retrouve à la fin tous les deux pour un petit débrief. À tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, Jérémy.
Merci, salut.
Très content de te recevoir. On a un peu eu de mal à trouver le créneau, on a repoussé plein de fois.
Un truc de fou, franchement, c'est devenu le gag, c'est pas possible.
Ouais, le mail, est-ce qu'on repousse, qui est arrivé plein de fois.
On l'a fait quoi, 5 fois, je crois. Cinq,
un truc comme ça.
Ouais. Et encore aujourd'hui, ça devait être 15h, finalement, c'est 13h.
Oui, mais on a trouvé.
on a trouvé. On est occupé, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout.
Ah oui, hein.
Busy lives.
C'est ça.
Bon, en tout cas, je suis trop content. Je suis curieux de voir où cette conversation nous mène, sachant que la dernière fois qu'on s'est posé pour vraiment discuter autour d'une bière virtuelle, ça a duré longtemps et on est parti bien loin.
Ouais, je pense qu'on a parlé 2 heures au moins.
Ouais, c'était un peu plus même, je crois. Presque
ouais.
Trois.
Ouais, ouais, c'est ça. Bon, quand tu mets 2 bavards dans une pièce, c'est ce que ça donne, hein.
Bon, on va voir si on fait autant, mais on va essayer de limiter un peu. Je te propose du coup qu'on engage direct par la question rituelle que tu connais, qui est « Jérémy, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant ?»
Alors pour moi déjà, c'était pas quelque chose de nouveau parce que mon papa était indépendant pendant plus d'une dizaine d'années. Il a eu un magasin informatique qui a très très bien marché dans la petite ville où j'ai grandi. Donc en fait pour moi, être indépendant, freelance, c'était quelque chose d'assez normal. Je trouvais ça cool de pouvoir mener sa barque et puis voilà, mon père il aimait trop ça. Puis ensuite, moi, quand j'ai fait mes études d'art, j'ai étudié le graphisme. Et en fait, tous les graphistes qui me plaisaient à l'époque, ils étaient tous indépendants. Tu sais, ils étaient tout seuls ou en binôme ou studio machin. Mais en tout cas, c'était tout le temps des indépendants et des freelances. Et puis, quand j'ai découvert ou redécouvert l'illustration, donc ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années, pour moi, le modèle, c'était que des gens indépendants. Parce que moi, donc, j'ai fait des études de graphisme, puis après, j'ai bifurqué vers l'illustration. Et que ce soit que le graphisme ou que l'illustration, en fait, pour moi, le modèle, c'était t'es indépendant. Donc, en fait, je ne me suis pas posé de questions. Pour moi, être indépendant, c'était... J'ai commencé en tant que graphiste en 2011. J'ai été indépendant 1 an et demi. Puis après, j'ai découvert l'illustration, j'ai voulu me reconvertir, j'y suis pas trop arrivé, je faisais les deux en même temps. Et puis j'ai pris un job de graphiste à plein temps dans une ONG quand j'habitais en Angleterre. Et en fait, cette année et demie en tant que salarié a été l'année la plus misérable de ma vie. C'est-à-dire que le job en soi, l'ONG pour qui je travaillais, les gens avec qui j'étais, ils étaient chouettes. Franchement, l'ambiance a été cool, les collègues, ils étaient cool, le travail, je faisais du travail utile. Mais créativement, je me mourais. Je me mourais en tant que salarié. J'étais le junior graphic designer, donc j'étais vraiment en bout de chaîne. Créativement parlant, ma parole n'avait que peu d'influence. Je faisais qu'un travail technique. Et même si je voulais bosser sur des projets perso, je ne pouvais pas. Et en fait, j'ai vraiment fait une sorte de burn-out au bout d'une année, mais presque burn-out de pas en faire assez, en fait. Je me mourais de l'intérieur, c'était terrible. Et en fait, quand j'ai déménagé en France en 2013 pour me reconvertir en tant qu'illustrateur et me rapprocher de ma chérie, il y a plein de gens qui étaient genre « Ouais, t'es courageux et tout », mais je suis genre « Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, pour moi, c'est de la survie, en fait, d'être indépendant, quoi. C'est genre « Je veux faire mes trucs, j'en ai besoin, j'ai besoin de... d'être autonome, de gérer mon truc et d'apprendre sur le tas, quoi. J'ai un parcours assez DIY, bricolé. Enfin, c'est comme ça que je le vois, même si peut-être ça l'est pas tellement. Mais pour moi, voilà, quelque chose d'assez picoré, en fait.
Ah, c'est intéressant que tu dises que c'était pour ta survie. Parce que ce que j'ai l'impression d'entendre dans ce que tu partages, c'était que tu avais un élan de liberté créative tellement fort qui est arrivé pas à répondre à ce besoin là que tu avais et que du coup il y avait aucune autre manière que le fait de être plus en possession de ton temps et de ce que tu faisais qui faisait que ben voilà, la seule forme qui est possible en fait c'est je dois être seul et à mon compte.
Exactement. Ouais.
Et du coup j'imagine que cet élan créatif on sent les prémices aussi de ce que tu as été amené à faire dans le futur. Donc, donner vie à tout ton projet et ton podcast Sens Créatif. Et du coup, j'étais curieux déjà, parce que j'imagine que tu te considères comme un être créatif, mais ce que tu entends par ça.
Ce que j'entends par là, c'est drôle parce que je pense que la définition a changé au fur et à mesure des années. Je pense que créatif, avant, je l'associais vraiment à de l'artistique. Je me suis considéré pendant longtemps comme un artiste entre guillemets, Flash forward, ça a changé aujourd'hui. Mais parce que je me suis toujours senti vraiment différent, et puis j'arrivais à tirer mon épingle du jeu de par le dessin, par l'illustration, à tel point que je l'ai amplifié pour en faire mon métier. Je me sentais toujours assez différent aussi. Je me disais, bah, c'est parce que t'es un artiste, c'est parce que tu vois une sorte de sensibilité vraiment de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est voilà lié de proche ou de loin au dessin, aux arts, etc. Et donc pour moi c'était vraiment lié à tout ça. Et puis aujourd'hui je dirais que un être créatif pour moi c'est une personne qui se réapproprie son libre arbitre, dans le sens où en fait on à chaque moment on peut faire un choix. En fait, et c'est un acte créateur, un acte créatif. On peut soit être coincé un peu dans moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. On peut parler de l'ego par exemple, ou du personnage qu'on s'est créé. Justement, tu vois, je pense que je me suis conforté pendant longtemps dans un personnage d'artiste, et en fait je me suis rendu compte que ça avait des limites, ça avait des limitations. Et en fait c'est en pétant ce personnage et ses limitations, justement, ben voilà, moi, ça fait 8 ans que je fais de l'illustration, ça fait 2 ans et demi que je fais mon podcast Sens Créatif, et en fait, en ce moment, je suis en train de bifurquer de l'illustration à plein temps au podcasting à plein temps. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas pété dans mon esprit et dans ma pratique le fait que je ne suis pas que ça, je ne suis pas que illustrateur, et aussi de me rendre compte que, par exemple, il y a aussi tout un travail de connaissance de soi, etc., mais que je ne suis pas tellement un artiste que ça, en fait, que je me sens beaucoup plus presque... Bah de nouveau, je n'ai pas envie de me mettre dans une case, mais peut-être journaliste, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. Je ne suis pas le gars qui... En fait, le truc qui a aussi été pas facile à accepter pour moi, mais qu'aujourd'hui, c'est une grande liberté, c'est que quand je fais l'illustration et quand je dessine, en fait, je travaille. C'est-à-dire que pour moi, le dessin et l'illustration a toujours été un moyen pour moi soit de tirer mon épingle du jeu et attirer de l'attention, donc un truc assez égotique au final, soit de le sublimer et d'en avoir fait un métier et que je peux en faire une transaction financière. Tu vois, il y a un truc qui parfois me... quand j'étais petit, je voulais gagner ma vie en dessinant. Je ne me disais pas que je voulais devenir dessinateur. Je me disais que je voulais gagner ma vie en dessinant. Donc, il y a une légèreté qui n'était pas présente dès le départ. Il y avait quelque chose de très économique dès le départ. Bon, ça vient aussi de mon histoire familiale, plein de choses, etc. Notamment, je passe des détails, mais en tout cas, le fait de réussir professionnellement était important. Et en fait, aujourd'hui, quand je travaille, quand je fais de l'illu, je n'arrive pas à trouver ce lâcher prise que j'ai trouvé dans le podcast. Je bosse en fait quand je fais de l'élu, quand je fais du podcast ou quand je discute avec toi ou quoi que ce soit. Je suis vraiment dans un échange, dans un flow, et ça me plaît beaucoup. Et donc du coup voilà, aujourd'hui je considère l'illustration comme un métier et plus comme une passion. Et en fait du coup j'ai une légèreté, c'est un outil dans ma boîte à outils. Et je me considère peut-être plus comme créatif que comme artiste, en effet. Et pour moi, être créatif, et là, je vais boucler ma boucle, c'est me réapproprier le choix de qui je veux être au moment T. Ça peut être dans mon boulot, mais ça peut être dans ma vie de famille, dans mon couple, avec mes potes, de ne pas être coincé dans un personnage et de pouvoir être une personne entière. Tu connais sûrement le fait d'être whole, to be a whole person. Et là, je choisis de s'autoriser aussi des choses qu'on ne s'autorise pas. Tu sais, genre, ah non, moi, je ne fais pas ça. Bah, en fait, si tu peux, si tu veux, tu peux. Et voilà. Ça te parle ?
C'est intéressant. Ça me parle à fond. Et il y a plein de choses que j'ai envie de toucher là-dedans. Mais le premier truc qui me vient, c'est... Tu as beaucoup parlé de l'influence de l'identité, de se dire... ah ouais, moi, il faut que je sois un artiste. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'injonctions qui peuvent poser là-dessus. Et c'est peut-être vrai aussi pour plein d'autres personnes qui s'identifient à créative ou j'imagine avec qui tu as discuté dans toutes tes conversations avec toutes ces personnes qui s'identifient aussi à créative. Et c'est ouf de... Moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point la manière dont on se définit soi, ça influence ensuite tellement de choses dans comment on se comporte et ce qu'on fait, les projets qu'on porte et ainsi de suite.
De ouf.
Et je trouve que ce que tu décris là, c'est le processus de passer de j'ai une identité unique et on essaye de, voilà, on rentre dans le truc qu'on essaie de façonner, à en fait la multiplicité de voilà, on change, on évolue et on a plein de facettes. Et moi, c'est ça que j'entends dans quand tu dis a whole person, une personne entière. C'est qui embrasse sa multiplicité et le fait de, on a plein de parts qui émergent à différents moments. Tu disais l'illustration, c'est un outil dans ma boîte à outils, mais c'est y a une part de toi qui a été là-dedans et maintenant il y a une autre part qui prend le dessus. Et enfin voilà, c'est une danse quoi.
C'est une danse exactement et ça me définit plus en fait. Et je pense que en même temps, vouloir se définir, c'est normal aussi dans un stade d'évolution. C'est-à-dire que bon, c'est Je suis pas spécialiste, hein, je suis pas psychologue, mais de ce que j'ai vu, appris, etc., c'est que dans les 30 premières années de notre vie, c'est comme si on construisait une sorte de cathédrale, on construit un peu qui on est, notre personnage, notre ego, du coup, qui n'est pas une mauvaise chose, hein, qui nous permet de nous construire. Puis après, on fait nos premières armes, on arrive à se prouver, à gagner des choses, à gagner certaines reconnaissances, à monter un peu les échelons avec ce personnage qu'on se crée depuis qu'on est jeune, etc. Et puis, à un moment donné, généralement, a priori, ça arriverait fin de la vingtaine, et c'est vrai que ça m'est plus ou moins arrivé à moi, l'édifice, la cathédrale que tu as construit, il y a des petites failles à droite à gauche, tu vois, où ça perce, en fait, et où, en fait, tu te rends compte que tu te tires des balles dans le pied, que c'est déconnant, pas forcément mauvais, mais que c'est déconnant, et que tu te dis, il y a peut-être des choses qui vont pas. Et donc, il faut un peu revoir sa copie. Et puis, en fait, on se rend compte simplement qu'on est là à essayer de défendre son petit bout de territoire, alors qu'en réalité, mais on est beaucoup plus de choses. On est tellement plus.
Ouais.
Et à tout le temps essayer de se défendre, de se définir. Au final, on se prive de l'expérience humaine dans sa globalité, en fait. Et donc, c'est cette sorte de nouvelle liberté progressive que je découvre un peu.
Ouais. Bon, je sais, c'est ça trop bien que. Ah bah, direct, hein, c'était pas étonnant, j'étais sûr qu'on allait tomber dans des choses comme ça. Mais je trouve ça cool que du coup tu raccroches effectivement ce truc de. Un être créatif, et donc la créativité, c'est moins le. Relié à la pratique artistique, entre guillemets, que à l'acte de créer sa vie, entre guillemets, et ça fait écho à ce que tu dis sur ton site de. Tu parles de la créativité comme une quête initiatique. Mmh. Et si je me permets la citation exacte, tu dis quelque chose, tu dis « c'est un voyage intérieur rempli de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres ». Je pense que c'est ça les couches dont tu parles, tu vois. Tu te reconnectes à chaque fois la prochaine stade, le prochain stade et le prochain pas sur ton propre voyage. Et c'est ça la créativité. Et je trouve ça trop bien comme point de vue, parce que du coup, ça ouvre des cases plutôt que d'en fermer. Dans « ah ben voilà, t'es illustrateur, du coup t'es créatif, t'es comme si t'es comme ça, quoi ».
Oui, bah, c'est ce que le freelancing permet, en fait, si on y va vraiment à fond, c'est de se découvrir au final. J'aime bien cette phrase qui dit « creating to unfold your inner self ». Ça sonne beaucoup mieux en anglais, c'est « créer pour révéler votre intérieur ». Et en fait, c'est uniquement en se donnant les moyens de tester des choses, d'essayer d'assembler des petits bouts truc l'un en l'autre, de tomber amoureux d'un médium, d'un sujet, d'y aller, puis après de pas le tenir trop fort dans ses mains, mais de le garder avec une certaine légèreté et de se permettre du coup de se laisser surprendre par le petit truc que t'avais pas, auquel tu t'étais pas attendu, la rencontre, cet autre médium où tu as trouvé une solution et au final tu dis ah mais en fait ça me plaît bien. Et en fait, couche après couche, tu te rends compte des boutons qui fonctionnent bien pour toi et des boutons où, en fait, t'es pas mauvais, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus fort quand même. Et puis, il y a des choses où on s'entête et tu te dis, mais pourquoi tu t'entêtes, en fait? Pourquoi tu t'entêtes? Parce que, a priori, d'accord, c'est ton rêve, mais peut-être qu'en fait, est-ce que ça te donne la vie? Ça, c'est vraiment un fil pour moi. Suivre son fil d'Ariane. Qu'est-ce qui te donne la vie? J'aime bien cette citation qui dit ne cherchez pas ce dont les gens ont besoin, cherchez ce qui vous donne la vie, parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des gens vivants, en fait, tout simplement. Et pour moi, quand je poursuis un chemin et que je me rends compte que ça ne me donne pas la vie, au bout d'un certain temps, je me dis bah, j'ai pas la continuité. Et je suis pas en train de parler de difficulté, hein. Genre si c'est compliqué mais que ça te donne la vie, c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt un bon signe.
Grave. Ouais, c'est clair. Et moi, ça me fait écho à me dire si ça, comme tu dis, si ça te donne la vie, et du coup, moi, j'ai l'impression, genre, c'est un mouvement d'ouverture plutôt que de fermeture.
Ouais.
bah en fait t'as tellement plus de résilience aussi pour aller au bout des choses et justement dépasser les challenges qu'il y a sur la route plutôt que d'être en mode je me force à faire un truc parce que on m'a dit que c'est exactement ça qu'il faut que je fasse mais au fond de moi j'en ai pas vraiment envie.
Oui.
Bah dès qu'il y a des barrages, en fait t'as pas les ressources et la résilience nécessaires pour les dépasser parce que bah c'est déjà fermé quoi.
Oui. Et c'est un bon moyen aussi de se mettre en route même avec des sortes de fausses motivations ou des fantasmes ou je sais pas quoi, parce que du coup tu peux te rendre compte de ah mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie. Quand tu te rends compte que tu te bloques en fait systématiquement, alors pendant un temps tu vas dire c'est pas ma faute, c'est à cause d'eux, c'est les clients, c'est l'argent, c'est le temps, c'est ma famille, c'est on peut trouver plein d'excuses, mais au bout d'un certain temps tu te dis non mais mec en fait ou meuf, ben c'est toi qui est en train de provoquer ce blocage, et donc du coup c'est là où il y a un travail qui est intéressant.
Grave, trop intéressant. Et ça fait bon lien parce que une des choses dont je voulais parler avec toi et que je voulais peut-être qu'on explore pour voir, c'est j'ai l'impression que quand on parle des créatifs, il y a plein de généralisations qui sont faites sur ah bah c'est plus dur pour moi parce que je suis créatif et donc blablabli blablablu, ou t'as dû côtoyer un peu le milieu des agences en travaillant en illude avec tes différents projets, et il y a toujours un truc dans le monde des agences dont j'ai fait partie aussi, de il y a les gens qui font la strat et tout, et ensuite il y a les créatifs par là-bas, ils ont leur mode opératoire particulier et ils sont différents, tu vois. Et je me disais, j'aimerais bien explorer, toi qui as discuté avec t'as plein de personnes qui s'identifient à créatives ou qu'on peut identifier à créatifs dans le podcast notamment, enfin voilà, tu baignes dans cet écosystème tout le temps et t'as échangé avec plein de gens. Je serais curieux de, est-ce que c'est vraiment vrai, à ton sens, qu'il y a peut-être des blocages récurrents, notamment quand on est indépendant, qui reviennent pour les personnes, entre guillemets, créatives, et qu'on explore ça, du coup?
Oui, alors il y a le manque de confiance en soi, il y a la peur, parce que la créativité, la création, ou l'acte artistique, c'est quand même quelque chose d'assez vulnérable, quelque chose d'assez exposant, surtout quand on veut en faire un métier. Donc, du coup, en fait, on est sa propre marque. Et donc, c'est assez difficile de dissocier notre identité, le fait qu'on a de la valeur juste parce qu'on est né et parce qu'on est. On n'a rien à prouver. On est juste aimable dans le sens digne d'être aimé parce qu'on est qui on est. Mais on se rattache beaucoup à ce qu'on produit, à ce qu'on fait. Et donc, du coup... c'est assez dur, surtout quand on débute et qu'on se prend des gamelles, de se dire en fait je suis pas nul. En fait, qui tu es, bah, intrinsèquement, tu as de la valeur. Ton travail, par contre, il a besoin de mûrir et de prendre du temps, de la maturité. Ça se travaille. Le craft, c'est pas toi. Le craft, c'est ce que tu produis. Et ça se travaille. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, il y a cette histoire de confiance en soi, la peur d'être se montrer, mais aussi la peur que ça fonctionne, la peur d'être découvert. Ouais, pour les personnes vraiment vraiment créatives et vraiment artistiques, je pense qu'il y a quelque chose de très viscéral, et que quand on n'est pas tous des génies, les génies sont très rares d'ailleurs, on devient bon à force de travail. Donc c'est dur au début quand on sait que t'as un truc, mais que c'est pas tout de suite recevable ou mature, hein, de persister et de pas se décourager, en fait. Et ouais.
Ce qui me vient face à ça, c'est de me demander. En fait, j'ai l'impression que ce que tu décris là, effectivement, c'est renforcé du fait qu'il y a une production créative à laquelle, bah, forcément, il y a une identification forte. C'est genre, moi, j'ai fait ça, donc ça, c'est moi, entre guillemets. Mais que les douleurs ou problématiques dont tu parles, j'ai l'impression que c'est plus des problématiques de l'expérience humaine, en fait.
Absolument.
Mais que, effectivement, potentiellement, les personnes qui sont dans des productions créatives hyper régulières et dont c'est le quotidien, mais du coup, ça accentue et ça appuie sur ces boutons qui sont déjà en chacun et chacune d'entre nous, et que donc, on identifie ça à « mais ça, c'est un problème de créatif », entre guillemets, parce que les autres, entre les autres, on appuie moins sur ces boutons-là, tu vois. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte.
Oui, oui, il y a de ça, carrément, et je pense qu'on est dans quand on est créatif, on est dans un don de sa personne. Et je veux dire, on crée quelque chose de rien. Tout le monde est dans le don de sa personne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais par exemple, si la comptabilité, par exemple, si t'es comptable, bah, je veux dire, tu peux être un bon ou un mauvais comptable, mais c'est genre, ça se... C'est une science, enfin, je veux dire, dans le sens où c'est quelque chose de très mathématique, tu vois, c'est genre, bah, juste deal avec les chiffres et fais pas de la merde. Que quand t'es... Ça peut être objectif, que en fait, quand la créativité, c'est quelque chose d'assez subjectif, quelque chose d'assez personnel. Il y a des choses qui touchent, des choses qui touchent pas. Il y a des gens qui étaient des génies, qui étaient pas au bon moment, qui... leur travail a été reconnu 20 ans plus tard. Il y a des aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa part du gâteau, mais c'est saturé, il y a tellement de gens. Donc, du coup, comment se différencier, comment rester vrai, comment... Enfin, c'est vraiment pas mal de problématiques. Et je pense que ça peut être assez, comment dire en anglais, overwhelming. Tu vois, c'est genre...
Ouais.
C'est le grand bain. Le monde n'a jamais semblé être un aussi petit village. Et tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Mais vu que tout le monde peut, bah, je veux dire, y a tellement de gens, en fait. Et je pense que le but, et c'est ça qui est un game changer pour moi, c'est le but, ce n'est pas comment je peux retirer mon épingle du jeu, mais qu'est-ce que je peux offrir, à quoi je peux contribuer à ce monde. Parfois, je dis un petit peu en rigolant, ça paraît un peu grandiloquent, mais ma plus grande contribution à l'humanité, tu vois. C'est genre, qu'est-ce que tu peux apporter à ce monde, et surtout dans le monde... on en rigolait en off, le monde d'après, quoi. Tu vois, c'est genre... Il y a tout à faire. Et donc, du coup, est-ce qu'on continue de jouer avec les mêmes règles du jeu? Est-ce qu'on essaie d'être dans quelque chose de moi? Et moi, je trouve que quand on est dans le nous, dans le partage, et ça paraît un peu wou-wou, cucu, tout ce que tu veux, mais moi, je trouve que ça a une énorme énergie de ouf quand on est dans... Quand on essaie d'offrir quelque chose d'honnête qui émane de nous pour les autres et pas juste pour se servir soi, en fait. C'est là où je pense qu'il y a une certaine magie qui s'opère.
Ouais. Et du coup, si je me permets de reprendre la métaphore du gâteau qui, effectivement, est bien utilisée, mais approfondissons-la, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt que de considérer il y a un gâteau qui existe et j'ai envie d'avoir une part pour faire partie du truc parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de cet anniversaire.
Ouais.
C'est plutôt... on est tous et toutes dans la cuisine et on est tous et toutes en train de cuisiner un gros gâteau ensemble tout le temps.
Ouais.
Et ok, qu'est-ce que je fais dans la cuisine, tu vois? Et comment je contribue au fait que le gâteau soit plus gros parce que je suis dans la cuisine et pas juste attendre qu'il soit cuisiné, quoi.
Mais t'as raison, dans le sens où quand tu vois le truc comme je veux ma part du gâteau, t'es pas en train de réinventer le jeu. Tu te dis, le gâteau existe déjà. Et moi, pendant longtemps, j'ai passé beaucoup de temps à, c'est mon côté bon garçon, à étudier les règles du jeu. Je veux ma part du gâteau. Comment ça fonctionne? Il faut connaître qui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté? Qui sont les gardiens des clés? Comment tu fais pour rentrer? Comment tu fais pour être reconnu, accepté? Comment tu fais? Quels sont les prix pratiqués? Comment ça marche dans le business, tu vois? Donc moi, c'était plutôt dans l'illustration. Et puis de me rendre compte que moi, quand j'étais dans justement dans l'illustration, le dessin, j'étais dans quelque chose d'assez centré sur moi au final. Alors attention, je précise bien que je parle que de moi. Je dis pas que les personnes qui font du dessin ou l'illustration ils sont auto-centrés. Mais moi, je sais que si je veux être honnête dans ma démarche aussi depuis que je suis petit, je me rends bien compte que c'est pour attirer de l'attention et pour récolter des likes, tu vois, entre guillemets. Et attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
On parlait du fait d'être dans la cuisine, de réinventer les règles du jeu.
Voilà, donc bon garçon, les règles du jeu, etc., comment ça fonctionne. Que, pour reprendre ta métaphore, si on se dit, bon, on va faire un gâteau, tous ensemble. Mais du coup, on n'essaie pas de comprendre les règles de ce gâteau préexistant, on en crée un nouveau de rien, et on le fait tous ensemble. Ah ben, c'est formidable, parce qu'en fait... Tu n'essaies plus de te faire accepter. Tu es accepté de base parce que tu le fais avec soit toi tout seul, soit avec d'autres personnes. Et on réinvente les règles du jeu. Tu vois, moi, je pense que c'est quelque chose que tu partages aussi. C'est quelque chose que je ressens beaucoup dans le podcasting parce que c'est un média en France qui est assez jeune. qui est plus existant depuis une bonne dizaine d'années aux US, mais qui est en plein boom en France et qui c'est une économie encore assez fragile. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent en avoir peur parce que c'est une économie qui n'a pas encore fait ses preuves. Mais en réalité, il y a tout à inventer aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand c'est organisé, syndicalisé, hiérarchisé, c'est à ce moment-là qu'un business devient plus sclérosant parce qu'en fait, ça peut plus bouger. Parce que, alors, certes, c'est plus clair, c'est plus solide, mais c'est beaucoup moins excitant. Donc, moi, je sais que j'ai toujours été attiré par les économies fragiles, comme l'illustration ou le podcasting, parce qu'il y a une liberté incroyable et qu'au final, on peut tout faire, en fait. Et moi, je vois que les règles, elles sont en train de changer partout, en fait.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant et comme tu as dit, ça peut être une démarche autant collective dans sur un marché par exemple, comme le fait que bah toi avec ton podcast, moi avec le mien, enfin nos confrères et consoeurs, on façonne le marché petit à petit aussi. Ouais. Mais c'est aussi une démarche individuelle et ça me fait penser à un truc qui m'est venu, c'est un truc que je vois beaucoup chez les jeunes indépendants qui se lancent de ah ben voilà, moi je suis ce métier, genre illustrateur ou graphiste ou consultant marketing, machin. Et on va voir comment les autres font. C'est-à-dire, comme tu disais, on regarde les règles du jeu. Ok, bah du coup, il faut que je fasse comme ça aussi. Et on regarde sur Malte, ok, lui il fait 600, lui il fait 500, lui il fait machin, ok. Je vais me mettre un peu au milieu. Comme ça, j'ai l'impression que je fais les choses bien et je joue au bon jeu. Alors qu'effectivement, à mon sens, la bonne démarche, c'est plutôt ok. Oui, ça existe, mais si je pars vraiment de moi et de ce dont j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire et ce à quoi ça ressemble pour moi de contribuer aux gens à qui j'ai envie de contribuer en comprenant qui sont les clients que j'ai envie de servir, ben à quoi ça ressemble si je fais quelque chose de neuf et que je fais quelque chose que les autres n'ont pas vu pour aussi me différencier. Et j'ai l'impression que ça vient plat du même endroit et qu'effectivement la démarche qu'on pense devoir faire, c'est l'autre, c'est ok. Les choses se font comme ça, je vais me fondre un peu dans le tas parce que sinon j'ai peur que ça fonctionne pas.
Mais c'est plus facile de se baser sur les autres parce que le travail a déjà été fait, mais que sur toi qui est peut-être débutant peut-être ou que tu as tout à apprendre. Mais quand on va vraiment au cœur de vraiment ce qu'on veut faire et qu'on s'approche vraiment de nous-mêmes et qu'on est vraiment honnête avec voilà vraiment ce que je veux faire et vraiment ça demande du temps, je crois. Enfin en tout cas pour ma part ça. Pris du temps. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille. Je suis toujours en chemin, mais je me connais mieux qu'il y a 10 ans. Et je pense de s'autoriser à se dire « Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. » Et tu sais un peu, parce que tu as fait tes gammes, tu as pris le solfège, tu as pris tes notes et tout, tu sais comment ça fonctionne. Et au bout d'un certain temps, ton instrument, tu sais le jouer, tu laisses tomber la partition et tu le joues, ton instrument, tu y vas à fond. Et aussi, en termes financiers aussi, c'est voilà ce qui est pratiqué en moyenne. Mais si toi, en fait, tu te dis que tu as besoin de moins pour vivre parce qu'en fait, ce n'est pas un lifestyle qui t'intéresse, ah bah, tant mieux. Et inversement, si tu te dis, bah, en fait, ça, c'est les règles qui sont pratiquées dans le game. Mais moi, pour ce que j'ai envie d'accomplir, je veux 2 fois, 3 fois ça. En fait, tu te rends compte qu'il suffit de demander. Mais c'est vraiment un truc, c'est bête, hein, mais c'est genre de demander aux personnes qui peut-être s'intéressent à ton boulot, qui ont un porte-monnaie. Et tout ce que tu risques, c'est qu'ils te disent non, en fait. Et du coup, ça demande vraiment une déconstruction de les choses... les fausses choses que tu veux, les choses peut-être que tu as chassées, enfin chase pendant beaucoup d'années. Et puis après, au bout d'un certain temps, quel est le lifestyle que tu veux et simplement de demander, en fait. Juste de demander, d'y aller. Il y a même une certaine candeur, en fait. Pardon. Il y a une certaine candeur, en fait, au final. De juste, je sais pas, j'y vais, voilà, tout simplement.
Et voyons ce qui se passe.
Voyons ce qui se passe.
Je te rejoins à fond sur le fait d'inverser cette dynamique aussi en partant de... Tu sais, moi, j'aime bien souvent parler de dire que, en gros, quand on prend le contrôle sur notre vie au travail et sur notre travail, quand on devient indépendant, ça en fait un potentiel vecteur pour nous aider à construire la vie qu'on veut avoir, le lifestyle, comme tu disais qu'on veut avoir, le mode de vie. Et du coup... dans cette démarche-là, à mon sens, la vraie question à se poser avant toute chose, c'est à quoi ça ressemble pour moi la vie que j'ai envie d'avoir au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, genre où j'habite, comment je vis en fait, et du coup de quoi j'ai besoin grâce à mon travail pour que ça ce soit possible.
Ouais.
Et en termes financiers, ça veut dire de quoi j'ai besoin pour financer ça. Et je trouve que c'est tellement plus pertinent du coup de renverser la question, de dire ok, il me faut ça, genre il faut que je vende ma journée à disons 600 euros jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ça ce soit la réalité, plutôt ouais. que de se dire ah tiens, la majorité des gens font à 300 jours, ça veut dire que je vais faire à 300 et ensuite j'essaye de évoluer à partir de là.
Oui.
Et du coup ensuite effectivement comme tu dis, aller demander et dire ok, ben toi j'ai l'impression que tu serais un client idéal pour moi, de quoi t'as besoin, et j'essaye de comprendre de quoi cette personne aurait besoin pour justifier le fait que ma rémunération
ah, oui.
soit de temps, parce que c'est ça qui me permet de vivre comme je veux vivre.
Totalement. C'est d'être à l'écoute des gens avec qui... En fait, c'est d'être profondément à l'écoute de toi-même et d'être à l'écoute des gens avec qui tu veux travailler, à qui tu as envie de servir,
ouais.
et voir l'écho qui se fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'échange, comme dans une amitié, comme dans un couple? Quelle est l'alchimie? Parfois, ça va être fastidieux, parfois, ça va être compliqué, parfois, ça va être juste simple. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Ouais. que j'ai observé dans ma presque soixantaine d'épisodes là, c'est que quand je me rends compte que la magie, c'est quand il y a une simplicité, il y a un amour, il y a un respect de ce qu'on fait ou des gens avec qui on travaille. Je pense que quand on essaie trop fort, moi je pense que je vais me faire tatouer la phrase « le mieux est l'ennemi du bien », tu vois. Parce qu'on a toujours eu l'impression, c'est jamais assez bien, c'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps. Et je me rends compte qu'en fait, je n'arrête pas de casser les choses quand j'essaie d'en faire trop. Et alors que quand tu es dans une certaine... Ça paraît vraiment bébête ce que je vais dire, mais genre... quand tu es dans une certaine simplicité, dans un jeu, dans le flow, dans... Quand ça te demande pas trop d'efforts, culpabilise pas, tu vois. C'est simplement, t'es dans ton élément et tu vois, discuter avec toi, pour moi, j'aime rencontrer des gens et discuter avec eux, m'intéresser à eux, voir comment... Moi, ça me fait évoluer toutes les conversations qu'on a, tu vois. Et je pense que c'est une des choses qui me motive, vraiment. C'est l'être humain, en fait. Et là où l'illustration, c'était self-serving, c'était pour moi ou pour un client pour de la thune, interviewer des personnes, j'ai l'impression non seulement de faire une belle rencontre, j'ai l'impression d'en apprendre moi, mais j'ai l'impression que ça sert plein d'autres personnes. Et en fait, on va pas se mentir, il y a une gratification humaine qui est aussi là.
Et incroyable.
Qui fait, pour le coup, un bien fou à l'ego aussi, dans le sens où t'es genre, mais en même temps, c'est quelque chose de sain, si on garde la chose avec du recul, parce que on a une vraie utilité et je pense que quel que soit le projet qu'on veut faire, que ce soit un travail individuel ou en groupe, vraiment d'être dans quelque chose de beau, d'utile, avec de l'amour, du respect. La magie, elle sera forcément là. Elle sera là. Bon, c'est un peu brouillon ce que je dis, mais voilà.
Non, mais je vais. Ça te va que je reformule pour te dire ce que j'entends.
T'en prie. Ouais.
J'ai entendu plusieurs choses et je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Ce que j'entendais au début, c'est que tu disais que il y a une sorte de poids qui pèse sur nous de pour que ça ait de la valeur, il faut que ce soit dur et qu'on lutte. Et revenir à, en fait, non, quand tu joues et quand on fait des choses qui ont de la légèreté, et ce que j'entendais pour toi, c'est que cette forme de discussion, et c'est vrai pour moi aussi, c'est hyper léger, c'est hyper simple, et on adore faire ça, et que en même temps, ça contribue de dingue à plein de gens, et ce qui nous pousse à continuer de le faire, et nous, ça nous apporte gratification sur plein de niveaux, mais c'est quand même fluide, tu vois.
Oui, c'est
et
ça.
Et j'aime bien cette idée de se dire get out of your own way et arrête d'essayer de chercher la difficulté là où parfois il y en a pas et suivre le flow de l'eau. Et c'est drôle, ça me fait penser à un truc. J'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp l'autre jour. C'était dans le petit village de Montignac où il y a une rivière qui passait, un village en Dordogne. Et il y a une rivière et il y a plein de gens qui font du canoë l'été là-bas, plein de touristes. Elle m'a envoyé une vidéo de deux personnes dans leur canoë qui essayaient de remonter le courant. et qui faisait du surplace, qui elle bougeait absolument pas. Et du coup, elle me dit mais what the fuck. Et la petite phrase de qui accompagnait la vidéo, c'était quand t'essayes d'affronter la vie.
Ouais.
Et en fait, elle m'a renvoyé une autre vidéo. Elle m'a renvoyé une autre vidéo juste derrière où en fait ils avaient arrêté et ils repartaient dans l'autre sens. Et elle a dit et quand tu lâches prise et que tu suis le courant.
Exactement. Ouais.
Et je me suis dit putain tellement. Tellement illustratif de ce qu'on vient de se dire.
Et le lâcher prise, alors c'est une phrase qu'on entend à tout va tout le temps, mais en même temps c'est vrai. Et vraiment d'arrêter de voir la vie comme une sorte de vie ou de mort ou de bataille ou de guerre ou je sais pas quoi. Mmh. C'est genre je me bats pour y arriver. Ben en fait, peut-être que si tu baisses les armes et que tu baisses, enfin juste genre lâche en fait. Et peut-être en fait c'est dans les moments presque où on est presque prêt à abandonner et qu'on en a rien à foutre. Qu'en fait, la magie peut s'opérer. Parce que du coup, c'est une chose que mon thérapeute dirait, l'espace n'est plus saturé d'attente. En fait, la vie ne peut pas, la vie ne peut pas opérer quand en fait, c'est saturé d'attente. Et je vais utiliser ce petit exemple que j'aime bien utiliser, que certaines personnes n'aiment pas, mais bon, c'est comme ça. C'est comme l'histoire d'un petit chat qui est amoureux d'un petit poussin et il a ce petit poussin dans les mains comme ça. Et il le serre. Il le serre tellement fort, ce petit poussin, parce qu'il l'aime tellement. Il y est tellement accroché. Et puis, bah, t'imagines bien, il ouvre les mains et en fait, le petit poussin, il a crevé. Et c'est parce que bah, c'est juste genre... on s'attache parfois à des choses tellement fort et puis parfois on lutte, on se bagarre pour y arriver. Et alors bon, je mets un bémol dans le sens où il y a des circonstances et il y a des situations de vie où genre bah c'est compliqué vraiment, il faut vraiment pas diminuer ça. Mais vraiment ça peut aussi être une position de privilégié, tu vois, le discours qu'on a.
Bien sûr.
Je veux y être bien sensible. Mais vraiment en tout cas dans ma vie. Ce que j'ai observé aussi professionnellement, c'est que quand j'arrêtais de lutter, quand je lâchais prise, quand j'abandonnais presque, quand j'étais prêt à tout claquer, quand je m'en foutais, et ben, presque pour moi, c'est presque cette quête du je m'en foutisme en fait. C'est juste genre. Et en fait, ça fonctionne. Il y a de la magie parce que. Sur Sens Créatif, avec mon compère Laurent Bazar, avec qui s'occupe beaucoup de la communauté Sens Créatif, on a beaucoup parlé de jouer le jeu du sans-enjeu. C'est-à-dire que tu viens à ta discipline, quelle qu'elle soit, et donc tu viens pour jouer, pas pour travailler, tu viens pour jouer. Tu es régulier, tu viens tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas quel est le rythme que tu veux avoir, mais tu définis les règles de ton jeu, et puis tu le joues. En n'ayant aucune attente, tu joues le jeu du sans-enjeu. Et en fait, vu que tu joues, vu que tu aimes, vu que tu es régulier, à un moment donné, en fait, tu deviens bon, il y a une magie qui s'opère, il y a des personnes qui viennent sur ton chemin, tu fais des rencontres, les choses se font. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, il y a l'appel, Gandalf qui vient chercher Frodon, et puis petit à petit, sur ton chemin, ben, il y a des personnes qui se rajoutent à ta communauté, à ta quête. Et puis, de temps en temps, parfois, la communauté a besoin de se dissoudre et parfois, on a besoin d'aller sur notre chemin, etc. Mais en fait, les choses se font naturellement. Et quand on essaie de forcer les choses, c'est, à mon sens, c'est pas bon signe. Par contre, quand il y a des difficultés, c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que tu t'en fous pas, dans le sens où, ben, si tu as peur, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être pas le moment de rebrousser chemin. Parce que si tu flippes, ça veut dire que cette chose t'importe. Et si ça t'importait pas, tu t'en foutrais. Donc, voilà, quand tu flippes, vas-y en fait, parce que ça veut dire aussi que tu vas dans les, je fais un monologue là, mais que tu vas dans les bois, tu vas dans les bois inconnus, tu vois. Et si personne n'a jamais été là, the dark places, si tu réinventes le gâteau qui n'existe de rien, pour faire une boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, bah oui, ça n'a pas été inventé. Bah oui, cette forêt, elle est inconnue pour toi. Mais c'est excitant, non? Il va se passer quelque chose. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Et pour le savoir, il faut rentrer dedans, en fait. Et a priori, il y a eu un appel. Tu as été appelé par l'aventure. Tu t'es mis en marche d'une certaine manière. Il y a une quête qui est là, quelque part. Bah, vas-y, reste pas dans la comté, mec. Tu vois.
La comté, c'est trop facile. Ça me fait penser à le terme qu'utilisait Marion Cervarin dans une des interviews, je crois que c'était de la toute première ou de la seconde saison du podcast. Elle disait d'aller explorer les franges du tapis. Tu sais, c'est la partie qui est pas non plus complètement en dehors de ta zone de confort où tu te crames. et en même temps qu'il n'y ait pas le terrain connu du tapis sur lequel tu es bien allongé et il fait douiller à côté du feu. Ouais. Juste aller dans les franges et c'est là où, comme tu dis, la magie opère et on découvre plein de choses et on se découvre soi et on découvre aussi de nouvelles voies. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais sur le sans-enjeu. C'est assez drôle parce que moi, je suis face à un truc en ce moment qui n'a rien à voir et en même temps qui est hyper intéressant en termes de comparaison. J'ai repris le foot amateur en club en revenant à la campagne. Mmh. Ouais, j'adore d'ailleurs. J'avais fait ça toute ma jeunesse et en venant à Paris quand j'avais 20 ans, j'ai arrêté pour plein de raisons. Et là, je reprends et je me rends compte d'un énorme gap de mes performances entre l'entraînement où il n'y a aucun enjeu et là, le premier match de la saison qu'on a eu dimanche où clairement, genre, j'ai chuté, j'ai disparu, quoi. Genre, je comprenais pas, j'arrivais à rien. Enfin, voilà, il y a un truc psychologique qui faisait que j'étais pas du tout le même. Et du coup, je me dis, putain, c'est fou. Le fait qu'il y avait l'enjeu du premier match, c'était le derby contre, en coupe, machin. Il y a un truc qui a bloqué.
A bugué.
Et du coup, c'est pour ça me parle, ce truc que tu dis du sans enjeu, c'est que quand il n'y a pas d'enjeu, en fait, t'es tellement plus relaxé et t'as plus accès à tes compétences, en fait, et à ton potentiel. Alors que dès qu'il y a de l'enjeu ou qu'on se met plus d'enjeux, parce qu'en vrai, il n'y en a jamais de l'enjeu. On est tous en train de jouer dans un match de foot. S'il n'y a pas d'enjeu, il ne se passe rien si tu perds.
Bah oui.
Mais on se crée tout un enjeu psychologique, je pense, qui fait qu'on a beaucoup moins accès à nos capacités.
Mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple d'arriver au jour de match en se disant « Bah, rien à foutre ». En fait, c'est...
Ouais.
Parce que même si tu ne mets pas la pression, toi, c'est les autres, c'est le coach, c'est ton conjoint, ta conjointe, tes potes, ton fils, enfin j'en sais rien, tu vois, la société. Donc, c'est pas simple d'aborder les choses avec une certaine innocence, un je m'en foutisme, etc. Mais j'observe...
T'as des pratiques qui te soutiennent à le faire, toi? Pardon, t'allais dire j'observe, mais...
Le podcast, pour moi, le podcast, c'est un vrai... une prise de risque dans le sens où il y a quelque chose d'assez vulnérable, une parole, des hésitations, une rencontre. Au final, il n'y a pas une interview. Enfin, maintenant ça va mieux, mais il y avait pendant longtemps beaucoup d'interviews où je sortais de là en me disant j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû faire ça. Alors qu'en fait, ça fait partie du truc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, à force de répétition, l'inconfort. Hein, à force de faire des entraînements, des matchs, etc., tu te dis, bah, c'est juste un autre match. C'est juste un autre match, c'est juste une autre commande, c'est juste un autre client. Mais je sais que moi, par exemple, dans ma pratique de l'illustration, je sais que si je faisais une illustration à la Cintiq sur ma tablette graphique, ou si je faisais un crowbar dans le métro ou sur mon canapé, à l'arrache, mon croquis, il a beaucoup plus d'énergie. Le nombre de personnes... C'est pour ça qu'on aime voir les croquis, les storyboards, les croquis des BD ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, il y a une énergie jetée que quand on est dans le produit fini, parce que le produit fini doit être marketable, il doit être vendable, il doit être bien colorisé, il doit être acceptable, etc. Il y a une énergie qui est beaucoup moins là. Et en fait, les personnes qui transcendent le game, c'est des gens qui font des vrais projets, mais comme si c'était pas des vrais projets, en fait. Mais pour moi, c'est un vrai... tu me demandes est-ce que j'ai des pratiques. En fait, c'est une vraie difficulté que j'ai, une vraie... Un vrai laisser-aller pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez hyper vigilant, quelqu'un de base plutôt bon élève qui veut tout faire, tout bien faire. Et je me rends compte, c'est aussi une des choses qui me pousse petit à petit à lâcher l'illustration, c'est que je n'arrive pas à trouver j'arrive pas aussi vite à trouver une sorte de lâcher prise dans ma pratique de l'illustration. Les personnes qui connaissent bien mon boulot et qui la suivent depuis longtemps, plusieurs personnes m'ont dit, ah non, mais franchement, la dernière année, on a vu dans tes tafs et tout qu'il y a vraiment ton trait, il se fluidifie, il devient moins serré et tout. Mais moi, ça va pas, j'arrive pas à trouver le lâcher prise que je trouve dans le podcast, par exemple, tu vois. Et donc, au bout d'un certain temps, tu te dis pourquoi t'entêter.
C'est hyper intéressant. Hein, parce que du coup, ça me fait faire des allées et venues entre les endroits où je le sens vraiment se lâcher prise et les endroits où je le sens pas. Et je fais ce travail aussi avec moi-même depuis dimanche, donc depuis le match, là on est mercredi, pour me demander genre comment ça se fait qu'il y ait dans d'autres endroits, c'est hyper fluide pour moi, dans le travail par exemple, ça me fait penser genre des moments en conférence où tu pourrais te dire il y a tellement plus d'enjeux, où en fait, moi j'ai l'impression que ma part identitaire lâche, et des fois j'ai des sensations de comme s'il y a quelque chose qui me traverse qui n'est pas moi, tu vois. Genre, il y a quelque chose qui prend ma place et qui fait son show. Et du coup, je pense que ça vient de, ben voilà, je lâche complètement et je rentre dans un espèce de flow ailleurs.
Ouais.
Mais ça, je l'expérimente pas dans le foot. Et du coup, je me dis, tiens, c'est marrant. C'est quoi la différence entre les deux? Comment ça se fait que là, j'arrive à me désidentifier un peu et dans l'autre, non? C'est trop intéressant, quoi.
Si, moi, je pense que c'est parce que quand tu donnes une conférence, c'est un craft que tu as travaillé, que tu connais depuis plusieurs années. Le foot, tu y reviens, tu es de nouveau dans la position du débutant, donc c'est assez difficile d'avoir un lâcher-prise que les conférences.
Je vais faire l'épreuve, je pense.
Ben oui, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent. Je reprends l'exemple du solfège. Au début, tu ne peux pas avoir un lâcher-prise quand tu apprends le solfège, sinon ton prof il va dire qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que t'es pas concentré? Non, mais je m'en fous en fait, monsieur. Non, je veux pas que tu t'en fous. Je veux que t'apprennes le solfège. T'en as besoin. Mais que, prenons 5-10 ans plus tard, ta trompette, ta guitare ou ta batterie, si t'es toujours scolaire, ça manque de vie en fait. Donc je pense que c'est normal d'être scolaire, c'est normal d'apprendre, c'est normal de prendre les choses à cœur, c'est normal d'observer comment les autres font, c'est normal de copier, c'est normal d'être dans l'imitation et tout. Mais au bout d'un certain temps, c'est genre, allez, ok, maintenant, fais ton truc à toi, vas-y. Et au fur et à mesure, on peut du coup se laisser traverser, comme tu dis, et être moins dans un contrôle. Et en fait, quand tu lâches, justement, tu te laisses traverser, tu te dis, ouais, j'ai fait ce truc, j'ai dit ce truc, il s'est passé ça. Et ça, c'était magique pour moi.
D'où ça venait?
C'est peut-être, ouais, c'est un truc un peu second. Et. Tu vois, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle, je ne les ai pas vus passer.
Ouais, pareil. Complètement pareil. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, du coup, ça me fait penser qu'il y a des phases, en fait. Et c'est cool parce que, du coup, là, je rentre vraiment dans juste mes pérégrinations mentales au fur et à mesure de notre conversation, de me dire qu'effectivement, peut-être quand tu démarres quelque chose, genre quand tu te lances en indé au tout début, mais peut-être que t'as besoin d'avoir un cadre avec des règles et de faire un truc hyper scolaire pour ensuite accéder au niveau où t'as plus d'espace pour lâcher et faire quelque chose qui n'existe pas.
Oui.
Et ouais. Moi, ça m'informe du coup parce que, comme tu sais, moi, ce qui me fascine le plus, c'est cette dimension pédagogique de comment on fonctionne en tant qu'être humain et comment on peut du coup transmettre des choses pour aider les gens à avancer sur leur chemin. Et c'est toute la base de ce que j'ai envie de construire avec mes projets autour de l'indépendance. Et du coup, ça m'informe sur peut-être une évolution, de se dire, en fait, moi, j'ai accès à ce côté dans ma vie professionnelle de réinventer des choses à partir de rien et d'une feuille blanche, mais peut-être que c'est trop en demander pour quelqu'un qui arrive déjà dans quelque chose d'hyper impressionnant et qui, pour le coup, a vraiment besoin d'un truc peut-être plus scolaire, certes, mais pour ensuite accéder au niveau de lâcher prise derrière. Donc, ça me fait réfléchir en direct.
On a besoin de mentors, je crois, au début. Luke Skywalker, quand il veut devenir Jedi, il va voir Yoda. Il apprend, c'est un Jedi qui lui a dit « Va voir Maître Yoda, c'est le meilleur. » Mais le truc, c'est que Luke Skywalker est devenu un Jedi quand il a désobéi à Yoda. Et en fait, c'est à quel moment tu décides de faire un fuck à ta partition, de dire non à ce… Tu sais ce que ton mentor ou ton maître attendrait, mais là, au fin fond de toi, et c'est là où ton intuition, c'est genre « Non ». Et au final, non, c'est dans la construction de l'enfance, c'est se différencier. C'est genre, je suis ma propre personne. Peut-être que tu te gourres, peut-être que, mais au moins, t'es plus dans une sorte de fusion avec ce qu'on attend de toi. Et tu vas sur ton propre chemin. Peut-être que tu vas te vautrer 2 mètres plus loin, mais tu te vautres. Tu te relèves, tu te dis « Merde, je me suis vautré. » Et tu recommences « Ah, je me suis revautré. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Et tu deviens ta propre personne, en fait. Donc, tu sors du « je suis » et tu vas vers le « je deviens » et je marche et j'essaie et tout. Et vraiment, je trouve que, voilà, oui, c'est mal vu de désobéir à Maître Yoda, mais Luc, c'est tout. Il est devenu un Jedi le jour où il a dit « Ben non, écoute, Yoda, je ne vais pas faire ce que tu me dis, en fait. » tu vois. Ce sont ces histoires archétypales qui disent quelque chose sur notre humanité. Et moi, je sais que j'ai eu divers mentors dans ma vie. Et il y a eu des moments où j'étais genre, je sais ce que lui ferait, mais je prends un autre chemin. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de vie parce que tu dépends plus de la personne de quelqu'un d'autre, mais de toi, en fait. Et quand ça marche, pour Lola, t'es contente, tu vois, parce que ça émane de toi, quoi. Tu as fait tien tout le savoir et hop, tu réinventes le gâteau au chocolat.
Yes. Et tu fais un gâteau au chocolat déconstruit, comme je crois qu'on dit dans, dans le jargon gastronomique.
Ah ouais, bah tu vois, je le connais pas ce terme. C'est drôle.
Il me semble, je crois, hein, je maîtrise pas très bien. Peut-être qu'on me corrigera dans les commentaires. Mais ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, ouais, c'est une phrase qui m'avait marqué sur ça, sur le fait que quand on est dans cette posture de transmission, on n'est jamais vraiment en train de donner la recette à la lettre parce que c'est complètement différent pour tout le monde. Mais c'est plus, genre, je suis pas devant toi en train de te donner la leçon. On est côte à côte, épaule contre épaule, et je montre une voie, mais qui est vraie pour moi aussi, en fait. Et on avance ensemble sur un cheminement, et il se trouve juste que j'ai peut-être un pas d'avance parce que j'ai vécu ça avant, et voilà.
Ouais.
Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et c'est très vrai du coup pour Yoda aussi, qui apprend encore quand il enseigne à Luke, et c'est un chemin qu'on nourrit ensemble, en fait.
Ouais. Bah moi, je suis très attaché à cette posture horizontale. Je suis pas très à l'aise avec la posture de guide. C'est pas quelque chose qui me... C'est une énergie où je me suis fourfoyé un tout petit peu, où j'ai toujours eu plein de choses à l'intérieur de moi que j'avais envie de partager. Mais je me suis rendu compte, justement, tu vois, en apprenant aussi à se connaître et l'édifice qui se craquait, etc., c'est que, par exemple, tu vois, par exemple, sur Sens Créatif, les deux premières saisons, j'ai fait tous les quatre épisodes et je faisais des monologues. Ces monologues étaient très populaires, voire peut-être même un peu plus populaires que les interviews. Et je pense que je les faisais bien. En tout cas, je me donnais à fond dedans. Je me foutais pas de la gueule des gens. Mais je me rendais compte que quand j'étais... même dans une attitude presque de on fait ci comme ça, il faudrait faire comme ça, ou genre j'avais l'impression de tirer les gens, de m'essouffler, et je me disais mais putain, ça m'essouffle. Même parfois quand je faisais des portfolio reviews avec des personnes, etc., je me rendais compte que je tirais la barque et que ça m'essoufflait, et je me suis dit il y a un truc qui cloche. Et en fait, j'ai fait un move stratégique en saison 3, j'ai enlevé les monologues. Et ce qui est drôle, c'est que en fait au sein de la communauté Sens Créatif et du Patate Club, les gens, on a un Discord aussi qui est très très actif, une communauté vraiment très soudée qui s'entraide, etc., mais il y a une sorte de switch où c'était plus qu'est-ce que Jérémy va nous partager, quels sont les billes qu'il va nous donner, mais du coup les gens se sont autonomisés et organisés entre eux. Et en réalité, tu vois, moi je m'occupe de Sens Créatif, mais le Discord, par exemple, je sais pas combien de personnes est dessus, mais il y en a quand même pas mal. Bah, moi, je suis 10-15% de ce qui s'y passe, en fait. Et je suis, il y a Laurent et d'autres admins qui gèrent bien le truc. Mais tout ça pour dire que on est ensemble, on cherche ensemble, et on se partage tous nos billes, en fait. Et c'est vraiment une posture qui me va et qui me plaît. Et qui est très importante pour moi.
Ouais, et que je trouve d'autant plus riche parce que on se nourrit de l'intelligence collective de tout le monde, en fait. Et pour moi, c'est vraiment dans cette diversité d'expériences humaines et la diversité de compétences qu'on acquiert avec le temps, qui est complètement différente pour tout le monde, qu'on se rapproche de plus en plus de entre guillemets la vérité, même si je ne pense pas qu'il y en ait une seule vraie qui marche à tout moment. On en parlait un peu tout à l'heure. Tout est paradoxe, en fait.
Oui.
En fonction de plein de critères.
Ouais.
Mais en tout cas, ça nous rapproche davantage d'avoir cette diversité, à mon sens.
Ouais, totalement. Et c'est tellement
plus fun. Et les communautés sont fantastiques pour ça.
Mais ouais, c'est fun, c'est dynamique. Il y a plus dans 2/100 têtes que dans une. Et aussi, on est tellement plus proche. Moi, j'ai envie d'être proche des gens, en fait. J'aime les gens, comme je disais. Je suis fasciné par l'être humain. Je me dis qu'un jour, peut-être, je finirai sociologue ou psy, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un truc où j'aime beaucoup les gens. Et je pense que quand tu te mets dans une posture de guide ou de gourou, il y a une distanciation qui se crée où les gens se disent, lui, il sait, moi, je sais pas. Mmh. Moi, je suis genre, en fait, on cherche ensemble. Et toi, t'as autant de choses à partager. Il y a parfois des gens qui viennent vers moi et qui me disent, est-ce que tu pourrais pas parler de ça sur Sens Créatif, ou est-ce que tu pourrais pas sensibiliser tes auditeurs à ceci ou à cela? Et parfois, je leur dis, bah, en fait, soit j'en ai déjà parlé, soit ça m'intéresse pas, soit ce serait à toi de le faire. Oui, mais j'ai pas ton audience. Mais fuck it! C'est genre, en fait,
ouais, grave.
Crée ton truc. Par exemple, quelqu'un m'avait demandé de sensibiliser les trucs au niveau administratif. Tu vois, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour les artistes en France, etc., toute l'administration. Mm. Et moi, je trouve que l'administration, c'est très important. Mais je me vois pas faire un podcast avec la maison des artistes ou faire un truc. Enfin, ça me transcende pas, tu vois. Je trouve que c'est important. Mais j'ai dit à cette personne, j'ai dit, mais fais un média spécialisé sur l'administration fiscale pour les artistes. Bah oui, mais moi, j'ai pas ta voix. Mais t'as la tienne, mec. Ah bah vas-y. Parce que si t'es passionné par ça, parce qu'il me disait, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Bah, je dis, bah oui. Ben, vas-y, fais-le pour eux. Moi, j'ai que deux petites mains, hein, et je peux pas. Voilà, c'est déjà très dur de discerner ce qui est important pour soi. Hein. On va pas se mentir, c'est pas simple malgré tout. Que si on va commencer à porter les quêtes des autres, bon, on a plus fini. Et quand les gens te transforment en porte-drapeau, ça m'est arrivé une paire de fois. Ben, je suis genre non, mais je suis pas ton porte-drapeau en fait. Je suis mon propre porte-drapeau. Et encore, je suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça, mais en tout cas, je ne suis que moi, quoi. Ou je deviens moi, je sais pas comment faut le dire.
Ouais, j'aime bien la rephrase. Et d'ailleurs, c'est quoi moi? C'est une grande question, ça. Qui suis-je? Parce qu'est-ce qu'il y a un truc qu'on peut toucher où on dit, ah tiens, ça c'est moi ou pas? Et on revient sur ce qu'on disait sur l'identité au début.
Ouais.
Qui est une grande question fascinante.
Carrément.
Ah là là, je suis curieux de par où repartir. Je vois que ça fait une heure. On a des questions rituelles de fin. Et en même temps, j'ai envie de continuer cette exploration. Et j'adore ça quand on discute ensemble.
Qu'est-ce qui te donne la vie?
C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me donne la vie?
Là, tu as envie d'aller où?
La vie.
T'as envie de creuser où?
Là, j'ai envie d'aller où? J'aimerais bien savoir pour toi. Qu'est-ce qui dans toutes les interviews que t'as faites, toutes les personnes avec qui t'as discuté et eu des conversations aussi fascinantes les unes que les autres, c'est quoi, disons, les trois choses qui t'ont le plus marqué, personnellement, ce que tu retires le plus de tout ça?
Waouh, bah, que justement, c'est peut-être une redite, mais que quand l'alchimie, elle est là, tu peux pas la louper. Elle est là. C'est genre, particulièrement sensible à l'alchimie entre plusieurs personnes, par exemple les personnes qui travaillent en collectif, en duo ou en trio. J'ai vu dans leurs yeux et dans les attitudes pendant l'interview, comme je disais, un amour, un respect, un 50-50, on se prend pas la tête en plein de choses, et une confiance. Et quand il y a une alchimie comme ça entre deux personnes, mais faut pas faire n'importe quoi. Enfin, dans le sens où c'est genre... Bah c'est là, vas-y, prends-la, tu vois. Moi, je sais que j'ai cette alchimie qui se travaille, hein, mais avec mon ami Laurent Bazar, où on fait des choses ensemble, bah, je souhaite à tout le monde d'avoir un Laurent Bazar dans sa vie, tu vois. Je sais que ça fait un peu rock et rocky, ce que je dis là, mais tu vois, il y a vraiment ce côté... ton ami, c'est moi. Enfin, tu vois, c'est genre vraiment de... Quand il y a quelque chose de beau qui se perd, ce serait dommage de... Ça ne veut pas dire au niveau professionnel, hein, mais de faire quelque chose avec ça. Puis le lâcher prise. Vraiment des personnes qui se prennent pas la tête. Tu vois que les gens qui où ça marche pour eux, ils ont une légèreté et un sérieux à la fois. Ils sont sérieux, ils sont légers, mais ils sont très sérieux sur ce qu'ils veulent faire en fait. Et ils s'en foutent pas, tu vois, mais ils y vont un peu les mains dans les poches et ils ont développé leur craft. Et aussi, et ça c'est important de se le rappeler, c'est que tout le monde a des difficultés. Et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi, c'est que j'ai eu l'occasion d'interviewer des personnes vraiment sortes un peu de rockstar de l'illustration, tu vois, que les gens regardent vraiment un peu, qui mettent sur un piédestal. Et quand tu vas gratter gratter l'édifice, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde fait caca, tout le monde tombe malade, tout le monde a des difficultés, tout le monde a des clients relous, tout le monde a des difficultés avec soi-même, tout le monde a des tensions. Et en fait, c'est facile pour personne. Et donc, du coup, c'est genre, c'est chill, quoi. Si tu as des difficultés, si tu flippes, t'inquiète, même tes héros, ils l'ont vécu. Et le overnight success, ça n'existe pas. Et ce sont des gens qui... Donc voilà, il y a ce mélange, tu vois, de légèreté, de sérieux, de magie, de d'humanité aussi. D'être au plus proche de notre humanité. Moi, sur Sens Créatif, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Ce n'est pas la formule secrète, ce n'est pas un des tutos. Mmh. C'est genre, qui es-tu en tant que personne ? Et je pense que si au plus on est proche de notre personne... Au plus on peut être juste. Et je pense que la justesse, en tant que créateur, c'est là où il y a une étincelle qui se crée. La justesse. Moi, je cherche plus la justesse que le bon ou le beau, même si ce sont de très belles choses aussi, mais je pense que ce qui est juste, c'est un game changer. Tu le sens quand tu regardes un film ou que tu entends une chanson ou que tu discutes avec quelqu'un, tu te dis ça, c'est... Il y a une justesse qui est sur le fil, tu vois. C'est quelque chose de très ténu. Tu le sens quand c'est surjoué, quand c'est fake, quand c'est et on l'est tous à des moments différents, tu vois. Dans notre discussion, il y a des moments où je suis plus juste et des moments où je surjoue peut-être, tu vois. Mais d'en avoir conscience, c'est déjà une avancée.
Ouais. Quand tu déroules ton script de prospection ou de vente VS quand tu parles vraiment du cœur et que t'as vraiment envie de d'être au service de l'autre personne.
Exactement. Moi, j'aime bien dire que je pense ce que je dis et que je dis ce que je pense, ce qui fait qu'il y a une certaine simplicité, je le disais tout à l'heure, parfois une certaine candeur, une certaine naïveté également. Ouais. Mais je pense que c'est
rafraîchissant. J'adore ce mot, grave, je suis entièrement d'accord avec toi. Et le fait de partager sans artifice comme on fait là et de se remettre en question soi-même et de montrer en fait, je sais pas tout, même quand on est dans une posture de transmission où on pourrait attendre de nous que on sache tout et qu'on ait déjà les réponses et tout, et de montrer, non, en fait, on est en chemin aussi et on cherche aussi et j'ai pas toutes les clés, mais bordel, j'ai tellement envie de les trouver que je vais les trouver à un moment donné pour que ça fonctionne bien.
De ouf.
Et c'est ça, en fait.
Ouais.
Je te rejoins à fond. Et ce que tu m'as dit, il y a un truc qui m'a fait penser à un poème, et je vais lire juste les deux premières phrases, mais que j'adore. C'est un poème de Oriya Mountain Dreamer, qui s'appelle L'Invitation. Okay. En tout cas, la traduction française s'appelle L'Invitation. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
Je vous invite tous et toutes qui nous écoutent à le lire. Les deux premières phrases, c'est « Je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie. » Et tu as dit un truc un peu comme ça qui m'a fait penser à ça. « Je veux seulement connaître vos désirs et savoir si vous avez assez d'audace pour imaginer la réalisation de vos rêves les plus chers. »
Ah ouais, de ouf.
Et la dernière phrase que je vais dire aussi sur le rapport à soi, et il y a plein de belles phrases entre les deux. Je veux savoir si vous pouvez être seul avec vous-même et si vous aimez vraiment la personne qui vous tient compagnie dans vos moments de solitude.
Tout est là. Tout est là. Voilà, c'est bon, on peut plier.
On passe aux questions rituelles de fin, c'est bon.
Non, mais tout est là. Hein. Tu vois, on parlait de justesse. Il y a de la justesse là, tu vois. Moi, je te blablabla. Là, quatre phrases, bim, c'est là, c'est bon. Tu vois. Mais parfois, on a besoin de se répéter. Parfois, les gens, ils sont genre, mais ça, je l'ai déjà dit. Say it again, jusqu'à ce que ça rentre, tu vois. Mais je pense que c'est la force de la poésie. La force de la poésie, en quelques mots, de sonner juste. Merci.
Grave. Merci à toi de m'y avoir fait penser et de me permettre de me reconnecter. Et tu as parlé de difficultés juste avant, qui nous fait un bon lien avec une des questions rituelles de fin. Je vais changer l'ordre pour une fois.
Yes.
Et on va commencer par celle-là qui est du coup, dans ton expérience à toi, depuis que tu es à ton compte, depuis que tu es indépendant, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ?
Ah oui.
Et comment tu as fait pour la dépasser ?
Je pense que ma difficulté, c'était... Je me posais la question, est-ce que je suis tout seul en fait ? Est-ce que je suis tout seul avec mes questions? Est-ce que je suis tout seul avec mes galères? Comme je te disais tout à l'heure, au tout début, je suis arrivé en 2013 à Paris, je voulais me lancer en tant qu'illustrateur. Ben, j'ai pas la science infuse. Et en fait, je pense que ce serait une erreur de se croire tout, enfin, de tout savoir. Et en fait, je pense qu'une chose que j'ai bien réussi, c'est de savoir m'entourer. En fait, c'est de pas avoir peur de poser des questions. Et c'est d'oser poser des questions, peut-être qui nous paraissent bêtes, ou de se dire, mais est-ce que je suis vraiment... On a tous l'impression vraiment d'être tout seul à galérer, à essayer de comprendre les règles du jeu, justement. Et bah, comment j'ai fait pour surpasser ça? Bah, c'est simplement en allant frapper à la porte de personnes bienveillantes, de maîtres, de mentors, de collègues, qui m'ont pu me montrer un bout du chemin. Et ensuite, on va pas se mentir, mais le podcast Sens Créatif a été un amplificateur de tout ça. Mais Sens Créatif est un amplificateur de plein de petits tests que j'ai fait par le passé, où j'avais fait par exemple, j'aime bien m'entourer de personnes, donc le travailler en coworking, j'ai fait des fanzines où j'ai demandé à d'autres personnes de participer en guest. Et après, j'ai organisé des soirées de lancement dans mon coworking, ensuite dans une librairie, puis les gens se sont venus, se sont rassemblés. Et en fait, à force de tu sais, les gens, je sais que je suis assez connu pour être bavard, et j'en ai longtemps eu honte, et puis au bout d'un certain temps, je l'ai accepté comme partie intégrante de moi. Et bien, quand tu mets tous ces petits bouts ensemble, ces petits trucs un peu DIY, ces petits tests, ces discussions que j'ai, les gens qui réagissent, les gens qui viennent, le fait que quand j'ouvre la bouche, ça a peut-être plus d'impact que quand je fais une illustration, etc. Je me suis dit, mais il y a une magie. Et donc, du coup, j'ai appuyé sur tous ces boutons en même temps. Et Sens Créatif, c'est un peu ça, c'est un peu rassembler un peu toutes les choses qui sont très moi. Et mon questionnement de base, c'était, suis-je tout seul? Et en fait, c'est magique d'envoyer un signal dans l'univers, suis-je tout seul, et qu'en fait, tu reçois des centaines de messages de retour d'autres extraterrestres qui te disent, non, tu n'es pas seul.
Et je croyais que moi aussi, j'étais tout seul.
Bah ouais, et continue. Tu sais, genre les messages de l'univers continuent, donc tu continues. Et en fait, il y a un échange comme ça, un échange cosmique qui se crée. Et en fait... Donc voilà, je me croyais isolé parce que voilà, je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, si c'était ma chérie et ses quelques amis qui n'étaient pas du tout dans le milieu. Et puis voilà, je me suis entouré. Et le podcast, voilà, ça permet de rassembler plein de gens à travers un média. C'est sûrement quelque chose que tu connais aussi.
Ouais.
Et de se sentir moins seul. Juste purement ça, cette difficulté. Aujourd'hui, je sais que si je veux faire quelque chose, mais j'ai un panorama de personnes que j'ai interviewé ou pas, hein, ou juste des potes ou des personnes dans la communauté, où je peux appuyer sur tellement de boutons et dire eh, venez, on fait un truc ensemble, on fait ci, ça vous dit, on fait ça, c'est formidable. Alors du coup, je me sens plus du tout seul, et cette solitude, elle peut être brisée. Et en fait, ça ne nous demande en fait juste qu'à se mettre en chemin, se mettre en mouvement et aller chercher sa tribu. Et quand tu trouves ta tribu, bah, y a quelque chose de très réconfortant. Et puis après, au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a aucune tribu qui est la tienne, en fait. Ta tribu, c'est toi, en fait. Tu belong everywhere and nowhere. Tu vois, genre, tu es ta propre personne, mais ça fait quand même vachement de bien de rencontrer des personnes avec qui tu peux faire des choses et de juste sortir de vos cavernes, les gens, quoi. Juste sortir de vos cavernes.
Crash. Tellement d'accord avec ça, et je trouve que ça change tout. Enfin, les rencontres, quoi, on revient à ça, c'est les autres êtres humains qui jouent des rôles particuliers pour nous à différents moments, et comme tu dis, tu parlais des communautés tout à l'heure, c'est aussi un amplificateur de ça, d'en faire partie, d'en impulser, d'en rejoindre, donc ouais, 100% d'accord avec toi, et merci pour ce beau partage, ça me parle aussi à fond. Et du coup, en parlant de... Là, on était dans... Tu parlais de sortir, regarder vers les autres. On va regarder un peu vers toi maintenant. La question, c'est si tu étais face à toi-même, mais une version antérieure de toi-même, c'est ton premier jour d'indépendance. Donc, tu es graphiste encore.
Ouais.
C'est quoi le conseil que tu te donnerais à cette époque-là, avec tout ce que tu as appris depuis?
Sois pas... je dirais, sois pas aussi pressé. J'ai toujours été pied au plancher avec une sorte d'urgence de réussir. Et en réalité, je pense que c'est quelque chose d'assez générationnel. Je pense que c'est partagé encore plus par les plus jeunes. Bon, je suis personne, hein, mais juste de ce que j'observe, je vois cette urgence à se réaliser, à devenir quelqu'un, quelque chose, une voix ou je ne sais pas quoi, et de tout de suite réussir, quoi que whatever it means, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que de prendre le temps... Le truc, c'est que je suis sûr que ce conseil a déjà été donné 1000 fois et qu'en fait, on n'arrive pas à l'incorporer tant qu'on ne fait pas ses propres expériences.
Ouais.
Mais ça prend du temps et c'est OK. Et j'ai presque envie de rajouter, profite du voyage. Parce que moi, j'ai toujours voulu aller d'un point A à un point B et c'était B qui était important. Et en fait, je ne profitais pas de l'autoroute, de mes potes dans la voiture, des petits détours dans la campagne, de l'arrêt, de la pause pipi, du paysage, des montagnes que je ne vois pas juste sur ma gauche parce que je suis genre, il faut que j'aille sur mon GPS, là, il faut que j'aille par là et tout. Et c'est juste genre, en fait, les choses se feront en leur temps et c'est OK. Alors, je crois que, bon, ça fait qu'une dizaine d'années que je bosse, hein, mais je crois que c'est plus simple à dire quand tu commences à avoir des petites reconnaissances et des petites accolades et des petits prix que tu te dis. Je pense que ça vient calmer quelque chose en soi, hein, malgré tout. Hein, donc, c'est peut-être simple à dire, mais je sais que j'ai toujours eu une certaine urgence. Et que, en fait, c'est bon, chill, quoi. Chill, ce sera tellement... Tu vas même mieux réussir en ne serrant pas le petit poussin dans la main, tu vois, en chillant, quoi. C'est bon, sors le pastis, profite de tes potes, quoi.
Je veux bien partager aussi mon expérience personnelle, parce que ça me touche ce que tu dis. J'ai enregistré hier avec Clotilde Dussoulier.
Ouais, bien sûr.
Moi, et on parlait à un moment de l'équanimité. Tu vois, le fait de... ne pas te perdre dans les messages négatifs qui arrivent, mais ne pas non plus te construire sur les messages positifs. Et moi, je me rends compte, dans ce que tu dis là, le fait de l'urgence, c'est que je me suis beaucoup construit à l'époque sur les retours que j'avais de « Ah, t'es si jeune de faire toutes ces choses, c'est incroyable de faire ça aussi jeune.
Ouais. »
Ou « C'est incroyable de patati aussi jeune. » Et du coup, comme je me suis beaucoup construit là-dessus, ça a créé une urgence de les trucs ouf, il faut que je les fasse tant que je suis jeune pour recevoir ça, parce que voilà, j'ai envie d'être le petit jeune qui fait des trucs de malade, et normalement, t'as 10 ans de plus quand tu fais des trucs comme ça. Et du coup, je me rends compte à quel point ça a joué sur parfois de la précipitation.
Ah oui.
Et parfois du stress que je me mettais moi-même, ou des injonctions, et de tomber dans des trucs à fort enjeu, parce qu'il faut que ça se fasse avant mes 30 ans, sachant que j'en ai 27.
Bien sûr.
Et enfin, blablabla, tu vois. Et du coup, grave, je te rejoins à fond sur ce côté l'urgence, et je pense qu'effectivement, génération d'encore avant, ils l'ont
aussi
encore plus.
C'est fort, ouais.
Parce qu'il y a une médiatisation de plus en plus forte de toutes ces histoires de succès, machin.
Oui, et il y a aussi une démocratisation du savoir qui est formidable. On n'a jamais dans l'histoire de l'humanité eu autant accès à tout le temps, en même temps, et à des savoirs vraiment de qualité. Ce qui fait que je pense qu'on peut clairement avoir une longueur d'avance sur les générations d'avant. Mais par contre, ce qui ne changera pas, c'est l'expérience. En fait, l'expérience, c'est année après année et... difficultés, bourdes, réussites, rencontres, enfin tout ça, ça se fait petit à petit. Et je pense que si on est que dans une sorte de rentabilité ou un besoin de réussite, on transforme les gens en projets aussi. Et c'est moche parce que du coup, on objectifie les gens, on veut les transformer en quelque chose, alors que plutôt de les recevoir et de se recevoir soi comme on est maintenant. Et voilà, laisse le temps opérer. Le temps fera son office et
grave.
Et de pas avoir peur d'abandonner aussi. Parfois laisse tomber. Mais je veux pas. Teste juste pour voir. Juste pour voir. Et puis en fait, au final, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a plus d'attente. L'espace n'est plus saturé d'attente. Et du coup, la vie peut fleurir
émerger de cet endroit-là.
Voilà. Quelle belle métaphore, n'est-ce pas, pour...
Ah ben oui, on a eu plein de métaphores dans cet épisode. C'est très cool. La question suivante sur le petit rituel de fin, qui est une question spéciale saison 5 que je posais pas avant, mais que je pose cette saison parce que j'avais envie de rajouter cette question, c'est quel est ton objectif professionnel du moment ? On parlait tout à l'heure de A vers B et le chemin entre. Ouais. C'est quoi ton B en ce moment ?
Mon B, c'est de développer le podcast, développer la communauté, et aussi parce que je vais devenir papa en octobre. Donc en fait, pour une seconde fois, et j'ai vraiment envie j'ai été très, très occupé professionnellement à la naissance de mon premier, et là j'ai envie de pouvoir vraiment me consacrer, en tout cas les premiers mois, vraiment à mon deuxième enfant. Donc j'ai envie de me simplifier la vie. Donc là en ce moment, je suis vraiment en train de mettre plein de choses sur les rails pour la saison 4 de Sens Créatif et pour développer l'écosystème Sens Créatif au-delà de juste le podcast. Il y a des choses qui vont se développer l'an prochain. Je ne peux pas encore trop en dire, mais stay tuned. Et donc ça pour moi, c'est vraiment. Je me suis rendu compte que ce podcast, ce Sens Créatif, cette communauté qui s'est fédérée autour, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Enfin, je l'ai cherché aussi, hein, mais et c'est dans ce panier que je mise et que je veux vraiment amplifier le mouvement. Et je suis très excité par tout ça. Et ça me donne la vie. Tu vois, et donc je veux continuer d'aller vers là où la vie. Donc, tu vois, professionnellement, c'est là où il y a la vie, et puis littéralement, la vie, elle va encore plus être explosive d'ici 2 mois. et j'ai vraiment envie d'accueillir cette vie dans tous les sens du terme dans ma vie. Voilà.
Trop bien. Et tu as un peu répondu, je crois, à la suite de la question qui est que. Les objectifs qu'on fixe et qu'on a, ils viennent toujours de quelque part. Tu vois, ils viennent toujours de choses plus profondes qui se manifestent par quelque chose de concret, comme ce que tu dis, développer le podcast, développer la communauté. Et du coup, ma question, et ça va peut-être te permettre de reformuler ou de trouver un autre axe, c'est d'où il vient à l'intérieur de toi cet objectif-là ? Pourquoi c'est important pour toi ? De quel endroit ça émerge ?
Alors, il y a deux endroits. Je pense que d'un point de vue égotique, pour être vraiment honnête, il y a une recherche de reconnaissance. Hein, je sais que parfois c'est pas joli à dire, mais je veux être honnête, c'est juste genre ça fait.
T'inquiète, je partage.
Ça fait partie du package en fait de notre humanité. Carrément. Et de qui a été vachement calmé et apaisé ces dernières années. Hein. Je suis beaucoup moins dans cette quête-là, mais je veux juste être vraiment transparent avec ta question. Mais c'est beaucoup moins fort chez moi aujourd'hui. Mais voilà, il y a un moteur qui est là. Et l'autre, c'est vraiment la connexion. La connexion à l'autre, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a une rencontre, en fait. Et connecter à l'autre... C'est vraiment quelque chose qui me motive. Faire que les gens se rencontrent, ça me procure énormément de plaisir également. Rassembler et sortir de nos cavernes, sortir de nos chambres à écho, apprendre à s'écouter, créer des ponts, c'est quelque chose qui est très important pour moi. On grandit tous avec nos communautés, notre éducation, nos systèmes familiaux, nos valeurs, etc. Et c'est tellement riche et intéressant de ne pas voir l'autre comme une menace, mais comme un enrichissement. C'est genre, mais qu'est-ce que je peux apprendre de toi ? Et je pense que pour moi, interview après interview, c'est prendre ce micro et aller élargir le cercle, en fait. C'est genre, tu me parais intéressant. Voyons voir ce qui peut se passer, tu vois. Et de nouveau, c'est la vie. Genre, quand je dis tu me parais intéressant, en fait, tout le monde est intéressant. Mais pour moi, je vois une vie, je vois un truc qui vient me titiller chez quelqu'un et je me dis, tac, je veux suivre ça. Donc, tu vois, connexion.
J'ai envie de creuser et voir.
On peut faire un bonus, hein, si tu veux.
J'adore. J'adore. Non, c'est cool. Ça me fait penser à un truc, un enseignement de Tony Robbins que j'avais adoré, qui m'avait pas mal touché là-dessus, qui parle de la notion d'équipe et du fait que plus on élargit notre spectre de qui est dans mon équipe,
oui,
plus ça a d'impact sur notre vie et sur notre potentiel d'impact et de connexion.
Oui.
Et que du coup, il y a une énorme différence entre mon équipe, c'est moi, mon ou ma conjointe, notre petite famille contre le reste du monde, tu vois, et
ouais,
je prends soin du sang.
Oui.
VS, mon équipe, c'est l'humanité tout entière.
Exactement.
Et je me sens ensemble avec tout le monde.
Oui.
Et effectivement, à mon sens, quand tu le poses comme ça, ton expérience de la vie est complètement différente.
Oui.
Et c'est vrai que cette pratique du podcast et de l'interview, moi, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque connexion que je fais avec quelqu'un d'autre, mon équipe s'agrandit, oui, de plus en plus.
Et
même si je me sens bien en lien. Et ouais, ouais, vas-y, rebondis.
Bah, ton univers interne s'agrandit également. Et aussi, ouais, les autres t'apprennent des choses sur toi. Donc, d'un point de vue purement personnel, en fait, on se rend compte que tout le monde est un miroir de soi, en fait. Ce que les gens te renvoient, en fait, c'est quelque chose de toi, parce que la relation que j'ai avec toi, elle est purement différente que j'ai avec quelqu'un d'autre, et inversement. Et en fait, il se passe une petite magie entre toi et moi qui n'appartient qu'à nous. Et en fait, quand on se rend compte que les autres, c'est un moyen formidable, en fait, d'apprendre sur soi. Et l'autre n'est plus une menace, en fait. Mais c'est assez récent, ce dont je te parle là. C'est des choses que j'ai vraiment découvert et expérimenté ce dernier mois, d'ailleurs. Mais c'est que même quand on me fait un reproche, ou si je me prends la tête avec ma chérie, ou là où avant, on pourrait être plus... On est souvent dans une sorte de justification, de défense.
C'est toi.
que maintenant je suis un peu genre, bon, ce truc il est quand même super récurrent, quoi. Genre, elle me dit quand même toujours ça sur moi assez fréquemment. C'est genre, bon, au lieu de lutter, hein, pour revenir la métaphore du kayak, ou genre non, c'est pas vrai, tu luttes et tout, tu rames. En fait, c'est genre, ok, qu'est-ce que ça me dit quand quelqu'un m'énerve? Pourquoi cette personne m'énerve? En fait, c'est probablement parce qu'il ou elle s'autorise quelque chose que tu ne t'autorises pas. Si tu admires quelqu'un, ouais, c'est peut-être parce que tu aimerais quelque chose chez elle que tu aimerais toi, mais que tu as déjà, mais que tu ne te l'autorises pas. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui font que, ben, en fait, si on a les mains ouvertes vers les autres, bon, je dis pas, je dis tout ça, ça paraît joli, joli, mais ce n'est pas simple, hein, mais c'est une source infinie, en fait.
Libérateur.
Ouais, c'est la quête continue. Et je pourrais presque dire que la quête, elle est peut-être... Il n'y a peut-être même pas besoin de quête, en fait. Juste là où tu es, au moment présent, au moment T, c'est suffisant que juste genre...
Ouais.
Juste... Enfin, voilà. Oui, bon, drôle de façon de terminer, mais oui.
T'inquiète, je trouve que c'est des bons points de suspension,
voilà,
qui laissent la place à tout ce qui émerge de là, quoi. C'est pas, il y a pas de point final, c'est
on devient,
and it goes on dans l'instant.
Exactly.
L'incarnation, tout ça.
Ouais.
Et on arrive du coup sur une autre manière d'ouvrir, qui est la question de fin de ce petit rituel que j'adore, et qui du coup, cette fois-ci, on se tourne vers nos auditeurs et auditrices. Et c'est, du coup, Jérémy, tu as droit à une question à poser à tout le monde pour que toutes ces personnes prennent un temps pour réfléchir semaine à leur activité de freelance, mais aussi leur vie en tant qu'indépendant et indépendante. Quelle question tu leur poses?
Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que là où ça pique, là où vous avez peur, selon moi, je crois que c'est probablement là qu'il faut aller gratter. Parce que probablement qu'il y a de la vie dans cette caverne, dans cette grotte dans laquelle vous n'osez pas aller. Donc, ouais, voilà.
Trop bien. J'adore cette question. Et tu dis selon toi, mais je vais rajouter selon moi aussi.
Okay.
Comme ça, on est deux à porter la responsabilité de cette question. High five virtuel. Trop cool. Si les personnes veulent répondre à ta question ou venir suivre ton travail, je les envoie où, Jérémy, pour continuer la conversation?
Alors, sur peuvent me suivre sur Instagram, évidemment, sur Jérémy Kleiss et sur Sens Créatif Podcast, peuvent m'écrire là, mais aussi aller sur senscreatif.fr. Et surtout, rejoignez le Discord, le Discord Sens Créatif, que vous pouvez retrouver également sur le site senscreatif.fr dans l'onglet communauté. C'est vraiment un lieu qui bouillonne de vie, de collaboration, d'entraide, de créatifs en tout genre. Bon, beaucoup des gens dans le domaine de l'image, hein, quand même. Mais il y a autant des illustrateurs que des graphistes, que des photographes, que des web designers, que des, et des gens qui font rien de tout ça. Il y a des professionnels comme des débutants, comme des étudiants, des gens qui cherchent, on cherche tous ensemble. Mmh. Ce Discord est assez fou. Mmh. Et si vous voulez aller plus loin, venez aussi dans le Patate Club, qui est une communauté encore plus soudée. C'est les personnes qui soutiennent le podcast sur Patreon. Et ça, c'est vraiment le lieu où il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, où on organise des rencontres mensuelles, on organise des workshops, on fait des collaborations, des projets sont en train de se monter. Et donc, il y a tout un écosystème qui existe et que je vous encourage, évidemment, à aller écouter le podcast. Il y a genre, je crois à l'heure actuelle, 57 épisodes qui sont sortis. Donc, ou écrivez-moi.
60 d'heures de...
ouais.
Trop bien.
Et c'est pas prêt de s'arrêter, donc ouais, voilà.
Dépêchez-vous. Avant oui. Que ce soit encore plus.
Bah ouais, mais c'est vrai que quand tu commences à écouter un podcast et que t'as 100 épisodes dans les dents, tu te dis juste genre, wow. Mais bon,
ouais.
C'est comme ça, on chôme pas. Hein.
Mais bon. Trop bien. Merci infiniment pour cette conversation, Jérémy. J'ai adoré.
Bah,
j'ai pas vu
toi.
Le temps passer, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure.
Comme d'hab.
C'était fantastique.
Merci à toi. Ouais.
Prends soin de toi.
Ça marche.
Prenez soin de vous toutes et tous aussi.
Ça roule.
Bye.
Ciao.
Je viens tout juste de finir de réécouter cet échange avec Jérémy en faisant le montage. Et clairement, ce qui me touche le plus dans cette conversation, c'est l'humanité que je ressens chez lui et du coup dans nos échanges. J'ai l'impression que le temps de cette discussion, on a pu toucher ensemble à des choses très simples en apparence et en même temps, à mon sens, si profondes et si précieuses pour nous tous, nous toutes. Et ça m'a vraiment reconnecté, et ça me reconnecte là, quand je vous parle, à ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Et ce que j'ai vraiment à cœur de te partager, à toi qui m'écoutes ici. Nos aventures respectives sont si denses, si complexes, si remplies, et je te souhaite vraiment de trouver dans ton quotidien cette détente, ce lâcher prise dont on a parlé avec Jérémy et que, personnellement, j'ai vécu pleinement en discutant avec lui. Alors voilà, je nous souhaite à tous, à toutes, de continuer de voguer vers ce qui nous donne la vie et j'espère sincèrement pouvoir contribuer, même juste un peu, à ce que ce soit possible pour toi. Alors prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.